Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau et on est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. WhatsApp est utilisé par plus d'un milliard et demi de personnes dans le monde. Achetée en 2014 par Facebook, cette application de messagerie est un pur produit de la Silicon Valley. Mais le continent où elle a sans doute le plus conquis les usages, c'est en Afrique. Simple d'utilisation, sécurisée, adaptée à des débits internet mobiles très faibles, WhatsApp permet de discuter gratuitement entre possesseurs de smartphones, mais pas que. Durant cette émission, on va s'intéresser à deux médias qui utilisent WhatsApp pour diffuser de l'information, comme les pionniers du groupe de presse Iwatsu au Burundi qui depuis 2015 partagent l'émission de leur web radio via WhatsApp. Mais tout de suite, direction Niamey au Niger.
Atelier@rfi.fr.
Il vient d'être 18h, vous êtes en compagnie de Rukayat Abdrahman pour l'édition.
Ce que vous venez d'entendre, je l'ai reçu cette semaine via WhatsApp de la part de Studio Kalangu. Créé en janvier 2016 par la fondation Hirondelle, Studio Kalangu produit depuis Niamey des journaux d'information et des magazines radiophoniques qui sont diffusés par 38 radios partenaires à travers le Niger, mais aussi via WhatsApp. En février dernier, Arnaud Contreras est allé tendre son micro à Studio Kalangu pour tenter d'en savoir plus sur cette expérimentation de WhatsApp pour diffuser de la radio.
Je m'appelle Raylat Soumana Hassan, je suis journaliste de Studio Kalangu. Mon poste, c'est secrétaire de rédaction. Ici, au Studio Kalangu, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des informations, des débats thématiques. Donc, on les diffuse en 5 langues nationales. Bon, 4 langues nationales et le français, notamment en tamashek, en fulfulde, en hausa et en jorma, plus le français. Et le débat qui est 45 minutes.
Alors, votre radio a lancé il y a quelques jours, quelques semaines, une expérimentation de diffusion de la radio via WhatsApp. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se déroule et quel retour est-ce que vous avez de cette expérimentation?
Donc, l'idée de partager l'information via WhatsApp, c'était l'idée de notre premier webmaster. Il a trouvé que initialement on partageait les infos via le site et Facebook. Donc il a trouvé que Facebook c'était pas accessible à tout le monde, notamment les endroits les plus reculés qui sont au fin fond du Niger. Donc il s'est dit que avec WhatsApp, même le monsieur, le grand-père, la grand-mère qui a un téléphone Android, il peut se connecter tant qu'il y a du réseau. Donc quand on produisait, on prenait les liens qu'on enregistrait sur WhatsApp, sur le téléphone, et on fait un message groupé pour tous ceux qui sont enregistrés sur ce numéro-là, et on leur envoie les liens. En un clic, tant qu'il y a la connexion, ils arrivent à écouter les informations de Studio Kalangu.
Alors ça concerne des zones qui ne sont pas couvertes par la FM, c'est ça?
Même les zones qui sont couvertes, il suffit, peut-être la personne n'a pas le temps ou bien n'est pas disponible à l'heure où passent les informations de Studio Kalangu. Donc tranquillement, peut-être le soir ou en faisant autre chose, en un clic, on peut écouter le journal n'importe quand, n'importe où. WhatsApp, c'est quand il y a le réseau, donc ceux qui sont reculés, qui n'ont pas de réseau, ils n'ont pas accès.
Outre cette expérimentation, qu'est-ce que WhatsApp a changé dans votre pratique journalistique ici, dans votre radio ?
WhatsApp, je dirais que ça a changé parce que ces gens-là à qui nous envoyons les informations, vu qu'ils ont accès à ce numéro, quand il y a quelque chose qui se passe, ils nous informent et à nous de vérifier la véracité de ce qu'ils nous ont dit. Donc, en quelque sorte, ils contribuent à l'amélioration du partage d'informations de Studio Kalangu.
Très concrètement, comment est-ce que cela marche? Prise en main avec Olivier Asogbavi, un des webmasters de Studio Kalangu.
Donc là, c'est le téléphone qui envoie, c'est grâce à ce téléphone que nous envoyons les messages et c'est le magazine du 11 février 2019, c'est-à-dire hier. Et ça, c'est l'image de la personne à qui le Studio Kalangu a accordé l'interview. Ça, c'est le test. Et alors, ça, c'est le lien. Donc on précise... Pour écouter, cliquez sur le lien surligné en bleu, le magazine en français. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien bleu que voici, et puis la personne aura directement le son.
Alors là, est-ce qu'on peut cliquer sur, je ne sais pas, le Zarma ou le Foufoulde pour voir comment ça marche? Là, ça renvoie vers quoi?
Là, directement, ça renvoie vers le lien. Donc, il faut juste patienter quelques secondes pour que l'audio démarre. Donc là, c'était le Hausa. Donc, pour quelqu'un qui ne comprend pas Hausa, la personne a aussi le choix d'écouter du Tamashek, par exemple.
Qu'est-ce que vous voyez comme avantage à cette utilisation de WhatsApp?
Oui, l'utilisation de WhatsApp présente beaucoup d'avantages parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'abord de lutter contre ce fléau des fake news, ça nous permet de lutter contre. Et comment? Aujourd'hui, tous ceux qui reçoivent les podcasts du studio Kalangu savent que c'est du sérieux, c'est du contenu vérifié et ça vient des journalistes professionnels. Nous, nous diffusons le journal, nous diffusons le magazine et nous diffusons aussi des débats. Du coup, s'il y a une fausse information qui circule aujourd'hui sur la ville de Niamey ou bien peut-être dans le monde ou bien une fausse information qui concerne une localité, la localité là, les gens de cette localité là, des fois nous alertent, d'autres attendent à 17h pour voir si Kalangu va parler de ça ou bien Kalangu va démentir. Donc ça, c'est l'un des avantages. Et l'un des autres avantages aussi, c'est demain, c'est la journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, nous avions demandé aux gens d'interagir via WhatsApp et il y a des gens qui nous ont envoyé des vocales, des témoignages et tout, dans des langues vraiment différentes. Donc c'est ça l'avantage. Le WhatsApp aujourd'hui nous permet de faire de ces auditeurs-là de vrais acteurs.
Mais quelle est la différence avec un standard radio où les gens appellent le standard de la radio par téléphone?
Auparavant, il y avait un dicton qui disait « les écrits restent, les paroles s'envolent ». Mais le numérique a vraiment cassé la donne. Les paroles ne s'envolent pas. Même si la personne n'a pas eu le temps de nous suivre en direct, dès qu'il rentre chez lui, tranquillement, il écoute le journal quand il le veut grâce à son smartphone parce qu'il a déjà les éléments du journal qui sont stockés dans son téléphone. C'est ça l'avantage en fait. Le standard, d'abord la radio n'a pas habilité à travailler 24 sur 24. Même s'il le fait, l'information ne passe que peut-être une fois par jour dans une fréquence donnée. Et si vous le loupez, il faut peut-être attendre d'autres éditions. Malheureusement qu'à Kalangu, on n'a qu'une seule édition dans la journée. Mais si vous ratez peut-être, vous ratez le journal en direct, c'est sûr que votre messagerie WhatsApp, vous allez essayer de répondre à tous les messages que vous avez reçus dans la journée et hop, vous allez tomber là-dessus, écouter ça tranquillement. C'est ça aussi l'avantage.
Ne disposant pas de fréquence FM, mais diffusant ses programmes via 38 radios partenaires, Studio Kalangu tente de conquérir de nouveaux publics grâce à WhatsApp. C'est ce que nous explique Ousmane Mamoudou, webmaster et community manager de Studio Kalangu.
Alors on a décidé d'utiliser WhatsApp principalement pour atteindre des personnes qui ne sont pas des habitués de la radio. Des personnes, peut-être une cible beaucoup plus... qui se sent en tout cas beaucoup plus à l'aise avec les médias numériques. Et WhatsApp, je crois, peut permettre d'atteindre certaines personnes qui n'ont pas forcément une radio, un transistor, comme on disait à l'époque, ou en tout cas un autre média social. Par exemple, Facebook, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas tous les jours, mais WhatsApp, c'est vraiment une application qui est en train de monter, qui monte. Beaucoup de personnes l'utilisent parce qu'elle permet de transmettre des messages audio, etc. Et donc, c'est vraiment un très bon canal, je crois, pour transmettre une information audio. Donc, pour la radio, c'est forcément une sorte de passage, surtout que nous sommes à une époque où le podcast est de plus en plus sollicité. On parle beaucoup du podcast qui va un peu révolutionner la manière d'écouter la radio, etc. Donc, faire le bon sur WhatsApp, je pense que ça peut, en tout cas, ouvrir des portes ou de nouvelles possibilités pour transmettre l'information audio.
Alors, quel est l'avantage de transmettre un son en audio comme ça? Parce que c'est pas un son en direct, c'est du podcast. Est-ce que des personnes qui sont très éloignées, par exemple de la zone d'émission, peuvent recevoir cette radio?
Peut-être on peut transmettre le fichier audio à une personne qui n'utilise pas forcément une plateforme connectée à Internet via des protocoles comme le Bluetooth ou l'infrarouge ou directement dans un support type clé ou carte mémoire. Parce que déjà au Niger, on sait que tout le monde n'est pas forcément connecté à Internet. Même si le taux d'accès à Internet est en croissance, il est clair qu'il y a des zones où l'accès est vraiment difficile. Il est vraiment délicat. Donc quelqu'un qui a déjà le fichier audio, il peut le partager. Et d'autant plus qu'il y a, je crois que le studio Kalangu, c'est une info, je crois, ils ont des clubs en fait d'écoute. Internet chez nous, ça coûte un peu cher. Et si on dit qu'il faut envoyer à chaque abonné tous les contenus que sont le forum, les journaux en 5 langues, les magazines en 5 langues, on va se retrouver avec au minimum 100 mégas de données à envoyer à chaque personne. Actuellement, on a plus de 500 abonnés. Donc si on décide d'envoyer 100 mégas à 500 personnes, ça va faire 50 gigas au moins à envoyer par jour. Et peut-être nous, on mise sur l'avenir, on espère vraiment que l'avenir sera pérenne et que ces infrastructures-là vont arriver à s'installer un peu partout et permettre aux gens de se connecter. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes. On peut citer la contrainte du coût de l'Internet, la contrainte de l'accès, etc. Parce que nous, on avait prévu d'envoyer directement les fichiers audio. Mais à cause des contraintes de coût d'Internet, on ne pouvait pas le faire parce que je vous ai dit qu'il fallait envoyer 50 gigas par jour. 50 gigas au Niger, c'est à peu près 50 000 francs CFA. C'est une fortune. Donc, on ne peut pas le faire. Mais peut-être c'est quelque chose qui va prendre avec le temps, qui va s'installer progressivement. Et je crois que au Niger, quand même, le réseau social le plus utilisé, c'est WhatsApp. Ça, il n'y a, je crois, hein, j'ai pas des chiffres à même, mais je pense que franchement, c'est WhatsApp qui est la plateforme actuellement qui est en vogue au Niger. Voilà. Et peut-être avec le temps, on espère que la connexion Internet deviendra moins chère, que l'accès au téléphone mobile, au smartphone sera généralisé, etc., pour que les gens puissent se connecter, puissent recevoir d'autres fichiers. Tout cela rentre dans le développement de l'économie numérique et aujourd'hui, il est clair que les gouvernements ont intérêt à investir dans ce domaine-là. C'est un domaine sur lequel beaucoup, je crois, d'organisations ont fait des études. Il y a des chiffres qui disent que l'Afrique, c'est le continent de demain, etc. Bon, d'un point de vue évidemment utilisateur d'Internet, nous en tout cas on espère que l'Internet va se développer dans le bon sens, qu'elle va se généraliser, qu'elle va se conformer aux normes démocratiques, etc. Parce que quand on regarde aussi, malheureusement nos États sont encore, on a l'impression que la politique numérique de beaucoup de pays est dictée beaucoup plus par la Chine que par certains États, parce que tous les téléphones finalement qu'on utilise, les smartphones, ils sont livrés par la Chine. Certaines infrastructures même sont construites par les Chinois. Et donc souvent, on se pose des questions. On a vu dans certains pays des réglementations qui sont mises en œuvre juste contre certains blogueurs, contre les journalistes, etc. Donc vraiment, nous, on espère que toute cette histoire-là va évoluer dans le bon sens et que l'accès à Internet vraiment sera généralisé, va atteindre un niveau, en tout cas, de développement beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, pour qu'un maximum de personnes puissent être désenclavées et s'exprimer.
Depuis l'enregistrement de ces interviews, Studio Kalangu poursuit son expérimentation et compte maintenant 550 abonnés. C'est un reportage d'Arnaud Contreras. Dans quelques instants, nous allons prendre la direction de Bujumbura, au Burundi, où le groupe de presse Iwatsu utilise WhatsApp depuis 2015 pour diffuser des informations. Mais avant de poursuivre, voici quelques informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de l'Atelier des médias cette semaine. Amazon paye des milliers d'employés pour écouter ce que disent à l'assistant vocal Alexa les possesseurs des enceintes connectées Echo. C'est ce que nous apprend Bloomberg, qui précise que ces écoutes sont censées être totalement anonymes, donc sans crainte pour les utilisateurs. Elles visent, je cite, à améliorer les performances d'Alexa. Mais on peut plaindre ces milliers d'employés confrontés à des extraits audio qu'ils n'aimeraient sans doute pas avoir entendus. Vous avez désactivé votre compte Facebook car vous ne vouliez plus que le réseau social traque votre activité en ligne? Eh bien, peine perdue, Mark Zuckerberg continue de collecter des données sur vous, nous dit CNET. Effectivement, vos amis ne peuvent plus accéder à votre contenu et vos activités, mais Facebook le peut encore tant que vous n'avez pas purement et simplement supprimé votre compte. Le processus prend 30 jours, délai imposé pour vous permettre de vous rétracter. Le scandale Cambridge Analytica n'a donc toujours pas été digéré par Facebook. Facebook qui a un grand projet de câble sous-marin qui encerclerait littéralement l'Afrique, nous apprend le Wall Street Journal. Baptisé Simba, comme le personnage principal du Roi Lion, il viserait à réduire le coût de la bande passante sur le continent, mais aussi, et on imagine surtout, de gagner encore des utilisateurs dans des marchés en pleine expansion. Reprenons le cours de notre émission sur l'utilisation de WhatsApp par les médias en Afrique francophone avec Iwatsu au Burundi. Bonjour Egide Nikidza.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable du service web du groupe de presse Iwatsu à Bujumbura. Iwatsu, c'est un site internet, un hebdomadaire et aussi une web radio qui diffuse notamment ses programmes via WhatsApp. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de diffusion de ces programmes via WhatsApp?
Nous avons au sein de mon service une équipe constituée de 4 journalistes qui travaillent au quotidien, une équipe attachée à la rédaction centrale. Cette équipe traite l'information. Et puis chaque soir, c'est une équipe qui envoie l'information au journal à nos abonnés. Alors, nous avons 80 groupes dont chacun est constitué par 256 personnes. Une fois qu'on a terminé à travailler, on a le MP3 qui contient l'information. On l'envoie à notre technicien qui est chargé d'envoyer cette information à nos abonnés. Et à partir de ce moment-là, on a l'audio qu'on envoie à nos abonnés qui sont répartis dans 80 groupes, dont chacun est constitué par 256 personnes, comme je l'ai dit en guise d'introduction.
Ça fait combien d'abonnés au total?
Plus de 20 000 abonnés.
Qui sont situés partout à travers le Burundi?
Ils sont situés partout dans le monde, mais particulièrement dans les pays dans lesquels on y trouve une forte concentration de la diaspora burundaise. Je peux citer certains pays où nous avons plus d'abonnés: le Canada, la Belgique, la Suède, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, en raison des événements de 2015. Parce qu'il y a eu un flux de Burundais qui se sont déplacés vers ces pays, qui sont aujourd'hui réfugiés. Donc, ils ont besoin d'être informés au quotidien de ce qui se passe dans leur pays.
Ce que vous expliquez, c'est que cette pratique innovante, elle est née justement de la nécessité de la crise politique de 2015 qui a vu la fermeture de plusieurs médias et qui a vu des gens quitter le Burundi.
Tout à fait. À la suite de la crise de 2015, il y a eu beaucoup de Burundais qui ont quitté leur pays. Mais comme dans tout pays, celui qui quitte le pays, son pays, il a besoin toujours d'être informé de ce qui se fait dans son pays. Ainsi est né ce projet de web radio pour que on puisse continuer à les informer. Comme je parlais tout à l'heure, le groupe via lequel nous envoyons notre journal à nos abonnés, c'est un groupe différent du groupe ordinaire WhatsApp, car les membres ne peuvent pas se connaître.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça a de différent? Pourquoi utiliser ce canal plutôt qu'un autre?
Non, le seul site ne suffit pas, parce que, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux, il ne suffit pas de traiter l'information. Après l'avoir traitée, il faut la relayer, la partager, la mettre à la disposition des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs. C'est ainsi que à chaque fois, quand on termine à traiter l'information, on met sur le site, mais également on partage à travers différents canaux, dont celui du groupe WhatsApp.
Le défi aussi, c'est de fournir une information de qualité, alors qu'il y a de plus en plus de fausses nouvelles et de rumeurs. Comment est-ce que, justement, vous essayez, vous, Iwatsu, de contrer ces rumeurs, ces fake news, ces fausses nouvelles sur WhatsApp?
Nous avons la chance, nous sommes sur terrain, nous accédons à différentes sources, quoique il est difficile, quoique certaines sources ne se confient pas facilement, comme avant la crise de peur des représailles éventuelles, mais je pense que nous traitons l'information d'une façon professionnelle, hein, car nous avons accès vaille à différentes sources. Donc, à mon avis, l'information que nous partageons, que nous relayons via ces canaux dont nous sommes en train de parler est fiable, hein, crédible, hein, par rapport aux intox circulant sur les réseaux sociaux.
Et vos lecteurs et vos auditeurs vous font-ils aussi remonter des informations via WhatsApp et leur répondez-vous ?
Via ces groupes WhatsApp, ils ne peuvent pas nous envoyer des informations. C'est nous seuls qui avons cette possibilité, je peux dire cette prérogative, hein, de leur envoyer des informations. Il ne s'agit pas d'un canal de communication. Raison pour laquelle, quand je vous expliquais la différence entre ce groupe WhatsApp par laquelle nous envoyons nos informations à nos abonnés, à un groupe WhatsApp ordinaire, c'est parce que pour un groupe WhatsApp ordinaire, on interagit, on s'écrit mutuellement, mais pour ce groupe WhatsApp par laquelle nous envoyons nos informations à nos abonnés, c'est la communication dans un seul sens.
Et par rapport au moment où vous avez lancé Iwatsu sur WhatsApp en 2015, avez-vous trouvé que la façon dont les gens s'emparent de WhatsApp, l'utilisation qu'ils ont de l'outil a évolué ?
Tout à fait, en raison des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Grâce à WhatsApp, ils ont continué à accéder à l'information de qualité, ils ont continué à avoir une information diversifiée. Ils ne se contentaient plus seulement des informations qui peuvent être fausses, hein, diffusées ou envoyées à travers les différents groupes. Mais grâce à notre groupe, le soir, on les renvoyait des informations crédibles, des informations qui ont fait l'objet d'une enquête. Car en plus de constater un fait, nous accédons à différentes sources. Donc nous vérifions si l'information est vraie, nous équilibrons, car Iwatsu c'est un média professionnel reconnu comme tel au Burundi et ailleurs, à l'extérieur.
Et les abonnés après se le repartagent, j'imagine, beaucoup entre eux. Et
bien sûr, les abonnés ils se relaient l'information entre eux. C'est pour cette raison là que je pourrais dire que quoique nous ayons pour le moment plus de 20 000 abonnés directs, notre journal, nos informations atteignent plus de 20 000 personnes, car ils se relaient, ils s'envoient mutuellement l'information.
Merci beaucoup, Egide Nikidza. Je rappelle que vous êtes responsable du service web du groupe Iwatsu et je vous souhaite une bonne journée à Bujumbura. Je profite de cette émission pour vous annoncer en exclusivité dans l'atelier des médias que RFI va lancer dans les jours à venir un fil d'information africaine via WhatsApp qui vous permettra de suivre les actualités du continent depuis votre smartphone. Pour vous abonner, envoyez Go, G-O, au plus 44 15 79 24 69 124. C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondo Blog Audio qui nous emmène à Yaoundé, au Cameroun, où une utilisatrice avertie de WhatsApp, Mariette Chanda, a dressé un top 10 des inconvénients de l'application de messagerie.
Je ne louerai jamais assez les avantages de WhatsApp. C'est tellement facile d'envoyer et de recevoir des photos, des vidéos ou des audios dans le monde entier. N'est-ce pas génial? Pourtant, j'ai dû me déconnecter un temps de WhatsApp pour souffler un peu. La gratuité de WhatsApp a engendré une sorte d'hypercommunication intempestive et vaine que je n'apprécie pas vraiment. On ne communique plus pour transmettre des informations utiles. En fait, 90% des messages que je reçois sur WhatsApp ne me servent à rien. J'ai donc décidé de dresser une liste des pires inconvénients liés à l'utilisation de WhatsApp. Voici ceux que je supporte le moins. Tout d'abord, les messages sont intrusifs. Tu ne peux pas les ignorer. Ils atterrissent directement dans ton téléphone avec ce petit chiffre qui te rappelle sans cesse le nombre infini de messages qui attendent patiemment d'être lus. Ensuite, je ne supporte plus les bonjours intempestifs et quotidiens de tout le monde et n'importe qui, surtout de la part de personnes qui en temps normal ne prendraient jamais le temps de t'appeler pour te saluer. Et puis, il y a les tableaux fleuris portant des inscriptions comme « Bonjour, que ta journée soit agréable !»« Heureux lundi !»« Joyeux mardi !»« Merveilleux mercredi !» etc. Ces messages m'exaspèrent au plus haut point. Et c'est comme les amis qui te disent bonjour en t'envoyant un selfie. Pourquoi ? Réserve ça à ta douce moitié, mon ami. Pourquoi les gens pensent que je veux savoir quelle tête ils font à toute heure de la journée ? Et je n'oublie pas les groupes. un groupe pour la famille maternelle, un autre pour la famille paternelle, deux groupes avec mes amis, le groupe de ma chorale, celui de mon entreprise, sans compter ce que j'ai quitté. Il y avait de tout. Les groupes du quartier, du secteur, de la rue, les groupes musicaux, religieux, scolaires, bref, on n'en sort plus. Vous allez me demander, mais pourquoi au lieu de subir tout ça, je ne supprime pas carrément l'appli? Parce que c'est gratuit, tiens. Et puis, je ne condamne pas tant l'appli en elle-même que l'usage qu'en font certaines personnes. Il faut simplement trouver des astuces pour échapper à tous les partageurs compulsifs d'informations superflues et pour y survivre en paix.
C'était Mariette Chanda du blog Par Monts et Par Vaux. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Deloche, Camille Sarrazin et Léo Caravagna. À la réalisation Simon De Creuse, au micro Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.